merci beaucoup de cette introduction et puis de l'invitation. Bon, je vais commencer tout de suite parce que en une heure ça va être difficile de tout caser, donc faut pas que je perde de temps. Je sais pas si. D'accord. Alors je voudrais commencer par une petite remarque que je trouve assez amusante, c'est que les nombres 1, 2 et 3, n'y songe pas suffisamment, mais sont extrêmement particuliers, non seulement parce qu'ils sont les trois premiers, évidemment, mais aussi parce que, d'une certaine manière, ce sont à peine des nombres. Si on nous pose la question, lorsqu'on a vu très rapidement la façade d'une maison, combien de fenêtres y a-t-il sur cette façade ? Jusqu'à 3, en fait, un seul coup d'œil nous suffit pour être capable de répondre à la question. Mais dès que le nombre dépasse 3, dès qu'on arrive à 4, un seul coup d'œil ne nous permet que d'évaluer la quantité avec une imprécision qui augmente avec leur nombre, un nombre que nous ne saurons de manière exacte qu'en comptant effectivement. Une expérience qui est extrêmement simple, si on prend des allumettes et qu'on jette un certain nombre d'allumettes sur une table et qu'on demande à quelqu'un de dire combien il y a d'allumettes, eh bien si il y a 1, 2 ou 3 allumettes, en fait on peut répondre immédiatement parce qu'on n'a pas besoin de compter. Alors que dès qu'il y a 4 allumettes ou plus, on ne peut répondre qu'en énumérant les allumettes l'une après l'autre, c'est-à-dire en fait en comptant effectivement. Alors, compter de la sorte, il se trouve que certains peuples n'en ont pas l'usage et ne le font jamais. Alors, on a trouvé en Amazonie un peuple qui s'appelle les Piraas, qui sont des chasseurs-cueilleurs, et qui n'ont de mots dans leur vocabulaire que pour 1 et 2. Et par ailleurs, il y a les Munduruku, qui vivent également en Amazonie, qui, eux, ne comptent avec exactitude que jusqu'à 5, et au-delà commence le règne du beaucoup, et éventuellement du beaucoup-beaucoup. Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, beaucoup et vraiment beaucoup. Alors, ces exemples exotiques, je les cite parce qu'ils permettent de saisir par contraste l'importance exorbitante prise par les nombres et les processus de comptage dans les sociétés occidentales modernes. Alors, on peut appeler ça la quantification du monde. On pourrait aussi parler, si l'on veut, de nombrification. À distinguer de ce que l'on appelle aujourd'hui la numérisation, qui est quelque chose de tout à fait différent, qui désigne la codification des données destinées à permettre leur traitement informatique. En dépit des apparences, les 0 et les 1 de l'informatique ne sont pas des nombres, mais sont les signes d'un code binaire, qu'on aurait pu appeler d'ailleurs A et B, ou alpha et bêta, ou n'importe quoi. En fait, c'est de manière tout à fait conventionnelle qu'on désigne par 0 et 1 les deux signes dont on a besoin pour un codage binaire. Mais encore une fois, j'insiste que les 0 et les 1 de l'informatique ne sont pas des nombres, mais des signes d'un code binaire. Ce n'est pas la même chose de coder et de compter. L'anglais, de ce point de vue-là, prête moins à confusion, puisque les anglais n'emploient pas le terme, enfin, pour numériser, ce qu'en français on appelle numériser, eux ils disent digitization. Et donc là on voit bien que la digitization n'a pas de rapport direct avec un processus de comptage. Bon, alors il se trouve donc que dans notre société où on quantifie à peu près tout, on pourrait dire que si au commencement était le verbe, eh bien aujourd'hui à peu près tout est nombre, là où étaient les mots, les chiffres adviennent, ou les courbes, les cartes, les diagrammes qui en sont tirés. On peut dire que la mentalité numérique colonise tout jusqu'au vécu intime. Il y a une défiance qui s'est installée envers les sensations, installée par la science moderne et qui s'est généralisée jusqu'à faire que les nombres deviennent les meilleurs garants de la réalité. J'en ai trouvé encore un exemple très récent en observant des coureurs à pied dans les rues de Paris. Il se trouve que maintenant, la plupart des coureurs à pied dans les rues de Paris ont autour du bras, en fait, un appareil pour compter les foulées qu'ils font, la distance qu'ils parcourent, leur rythme cardiaque, les calories qu'ils brûlent, etc. Et en fait, vous voyez ce qui se passe, c'est-à-dire que pour compenser ce que nos existences de plus en plus postées devant un écran ont de trop sédentaires et d'antinaturels. Nous sommes aussi également très nombreux, c'est les gens qui vivent en ville, après le travail ou bien le week-end, à aller courir. Mais le rapport au réel est tellement médiatisé par les nombres que même au moment où les facultés corporelles que la vie moderne laisse en jachère sont appelées à s'exprimer, donc quand on va courir, il faut s'équiper d'un bracelet connecté, interactif, ou utiliser une appli de son smartphone qui comptabilise, comme je l'ai dit, un certain nombre de données et les traduise par des nombres. Au moment même de laisser les facultés corporelles brisées, mal utilisées par la vie moderne s'exprimer, il faut encore utiliser des nombres. D'ailleurs, c'est promis encore à un très riche avenir, puisqu'on se dirige vers ce qu'on appelle en anglais le « quantified self », c'est-à-dire en fait la surveillance perpétuelle d'un certain nombre de données physiologiques par des nombres. Alors aujourd'hui, parmi ces processus de quantification, il faut remarquer que les données statistiques revêtent une importance tout à fait particulière. De très nombreux taux délivrés par les organismes, institutions, agences spécialement dédiées à leur production, qui concernent la croissance, le chômage, l'inflation, la bourse, la délinquance, l'immigration, les déficits, l'enseignement, etc. Pour tout. Une chose d'ailleurs aussi à laquelle on n'a pas suffisamment accordé d'importance, me semble-t-il, c'est que depuis le traité de Maastricht qui est entré en vigueur en 1993, eh bien, on a vu pour la première fois entrer dans des traités internationaux des données statistiques, puisque le traité de Maastricht engage les différents contractants autour du respect d'un certain nombre de règles qui font appel à des indices statistiques. Hein, c'est les fameux 1,5% d'inflation et les 3% de déficit, 3% du PIB à ne pas dépasser en termes de déficit. Bon, et donc pour la première fois dans l'histoire, des États se sont engagés sur des grandeurs statistiques qui deviennent des éléments de l'exercice du droit. Donc c'est là où ça permet de mesurer à quel point aujourd'hui notre existence est marqué par ces indices statistiques. Alors, évidemment, ces indices statistiques, en même temps qu'ils prennent de plus en plus d'importance, ils sont exposés à des critiques extrêmement nombreuses. On reproche en permanence aux statistiques de donner une idée très pauvre et réductrice de la réalité. Alors, pour essayer de mieux capter cette réalité, on met en cause en général la façon dont les indices sont constitués. Alors par exemple, on va beaucoup reprocher au produit intérieur brut d'être une très mauvaise mesure du bien-être des personnes, que donc il faudrait s'y prendre autrement. Et alors comment s'y prend-on autrement? Eh bien c'est que finalement, au produit intérieur brut, on va essayer d'ajouter d'autres indicateurs de richesse. On peut se reporter pour ça aux travaux de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social qui ont été publiés en 2009. Mais qu'il s'agisse de prendre en compte le bien-être social ou ce qu'on appelle aujourd'hui la soutenabilité du développement, on s'en remet finalement à de nouveaux indicateurs statistiques, c'est-à-dire qu'en fait on ne réduit pas la place de la statistique, mais au contraire on ne fait que l'amplifier. En ajoutant les indicateurs aux indicateurs. On s'emploie à corriger les défauts de la statistique en multipliant les statistiques, en leur faisant pénétrer les domaines qui échappaient jusque-là à leur emprise. C'est-à-dire qu'on reproche, par exemple, au produit intérieur brut de ne pas tenir compte du bien-être des gens. Et comment va-t-on faire pour tenir compte de ce bien-être? Et on va essayer de mesurer avec un certain nombre de nouveaux indices. Et cela parce que les seules réalités qui sont prises en compte dans l'espace public sont celles qui peuvent être quantifiées et agrégées en statistiques. On se confie à ces statistiques pour savoir ce qu'il faut penser de la réalité. D'une certaine manière, les statistiques deviennent plus réelles que la réalité elle-même. Là, il y a un indice aussi qui est assez amusant, je trouve, c'est qu'en avril 2012, durant la dernière campagne présidentielle, François Hollande, qui allait donc gagner cette élection, a déclaré Bon, ça, vous le savez tous, hein, parce que ça a été suffisamment répété, mais il a déclaré « le chômage n'est pas une fatalité et j'inverserai la courbe ». Et il a ajouté entre les deux tours de l'élection « le prochain mandat doit en effet permettre d'inverser la courbe ». Et puis il n'a cessé depuis de reprendre la même expression et nous ne cessons d'entendre parler de cette fameuse inversion de la courbe du chômage. Alors il y a quelques remarques qu'on peut faire immédiatement, c'est que d'une part que l'expression est quand même assez malheureuse puisque une courbe ça ne s'inverse pas, c'est son sens de variation qui s'inverse. Hein. Bon, ça c'est une première chose, mais bon, il y a aussi une très grande habileté politique. Puisque en concentrant l'attention de tout le monde sur le sens de variation de la courbe, on évite de parler du niveau du chômage. Et si l'inversion finit un jour par se produire, cela apparaîtra comme une victoire, même si entre-temps le nombre de chômeurs s'est considérablement accru. Mais la troisième chose sur laquelle je voulais vraiment attirer l'attention, c'est que vous voyez que dans le discours politique, ici, bon, le futur président de la République ne dit pas qu'il va faire baisser le chômage, mais qu'il va changer l'orientation de la courbe du chômage. C'est-à-dire qu'il ne parle pas directement de la réalité du chômage, il parle d'un indice statistique qui est la courbe du chômage. Et finalement, le fait que le président de la République parle dans son discours, non pas du chômage, mais du taux de l'indice statistique qui le mesure, est un très bon exemple de ce retournement. C'est-à-dire qu'en fait, les statistiques n'est plus là tellement pour donner, informer sur le réel, mais devient finalement le principal rapport que l'on a au réel. Comme je disais, devient plus réel que le réel lui-même. Alors souvent, cette omniprésence de la statistique est ressentie comme un fardeau, mais il faut bien remarquer que pour autant, on ne sait pas du tout s'en défaire. Et il n'est pas sûr qu'on le puisse, tant le règne statistique est intimement lié à la nature et au fonctionnement des sociétés modernes. C'est pour cela que je me suis intéressé à cette question. Parce que justement, s'interroger sur la provenance des statistiques, dégager les nécessités auxquelles elles répondent, ce n'est pas, il me semble, céder à un caprice universitaire, c'est travailler à une intelligence du monde présent. Intelligence qui, faute de libérer de toutes les chaînes, fait au moins tomber celle qui en sert la pensée. Alors, lorsqu'on s'interroge sur ce qui a fait que nous en sommes dans cette situation où les statistiques ont pris une telle importance et sont devenues la manière dont on a de juger du réel, je pense qu'il y a deux écueils à éviter. D'une part, une cécité au passé, qui empêche d'appréhender correctement les processus dont la réalité présente est le produit, et de ce fait condamne à une vue superficielle et vaine des choses. Pour comprendre les logiques à l'œuvre dans le présent, il faut faire leur généalogie. Mais l'autre écueil symétrique, ce serait de diluer les singularités du présent dans une histoire trop longue et générale, dans un mouvement qui se perd dans la nuit des temps. Alors vous avez des exemples permanents de ce type de choses. Par exemple, on va vous dire, de tout temps, l'homme s'est efforcé de maîtriser la nature et d'agir sur elle par des outils. Alors au temps préhistorique, il taillait des silex. Bon, bah aujourd'hui, il construit des centrales nucléaires. Voilà. Mais considérer les centrales nucléaires comme relevant finalement du même tropisme qui poussait jadis à tailler des silex ne fait rien comprendre à la technique moderne. Et interdit même d'y rien comprendre. Alors on peut dire la même chose pour la quantification, parce qu'on pourrait dire, ah bah finalement, les statistiques contemporaines, c'est l'aboutissement de procédures de comptage dont on peut trouver des traces extrêmement anciennes. Bon, on peut se dire que les bergers de Virgile devaient savoir combien de bêtes comptaient leurs troupeaux, mais d'un autre côté, on sent bien que depuis les bucoliques de Virgile, quelque chose a changé. Entre les bergers d'Arcadie et puis les statisticiens de l'INSEE, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et donc à ce moment-là, au prétexte de respecter les continuités historiques, on devient aveugle aux changements qualitatifs qui s'opèrent au long de développements qui peuvent être continus. Alors il y a un auteur américain que je trouve très intéressant qui s'appelle Alfred Crosby, qui s'est employé à déterminer les facteurs qui ont permis au cours de l'histoire l'expansionnisme de l'Europe. Et parmi ces facteurs, Alfred Crosby a décelé quelque chose dont on prend rarement en compte, mais qui est une sorte de supériorité écologique qui venait du fait que les populations européennes, en communication avec le monde méditerranéen et l'Asie, sont devenues résistantes à un très grand nombre de maladies, en même temps que porteuses de germes destructeurs pour les populations américaines ou de l'hémisphère austral. Et de ce fait, précisément, eh bien, les Européens, ce qui a fait l'immense succès de la colonisation européenne de l'Amérique, c'est aussi qu'on attribue le fait que les populations amérindiennes ont quasiment disparu avec la venue des Européens. Souvent, on imagine que c'est à cause de massacres. En fait, ce n'est pas à cause de... Évidemment, il y a eu des gens qui ont été tués, mais l'essentiel vient du fait que les Européens, en débarquant en Amérique, ont introduit des maladies qui ont tué la plupart des Amérindiens. Maladies qui ne tuaient pas les Européens parce qu'ils étaient habitués depuis longtemps à vivre avec ce genre de germes. Alors, à ces facteurs écologiques, Alfred Crosby ajoute une mentalité universaliste prête à se déployer sur n'importe quel territoire. Et d'après Crosby toujours, l'un des éléments caractéristiques de cette mentalité universaliste européenne est la quantification de la réalité. Parce qu'évidemment, où qu'on soit, eh bien, on peut toujours appliquer les mêmes procédures de comptage. Selon Crosby, je le cite, « Le mouvement par lequel l'Occident est passé d'une perception qualitative à une perception quantitative de la réalité » a connu une accélération à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle. Fin de citation. Et alors, selon Crosby, un tournant décisif a été pris entre 1250 et 1350, et même, d'ailleurs, il est encore plus précis, au cours du demi-siècle, 1275-1325. Et là, il voit vraiment un tournant en Europe dans les procédures de quantification, une accélération. Moins dans la théorie, que dans des procédés et des dispositifs concrets, c'est le moment où apparaissent les premières horloges mécaniques, les premiers canons qui induisent un rapport quantifié au monde, parce qu'à partir du moment où on tire au canon, il faut essayer de calculer la disposition du canon pour atteindre la cible, et donc en fait le canon induit beaucoup de calculs. C'est la période aussi où apparaissent les cartes marines et la peinture en perspective. Et puis, c'est la période également où se développent des procédures très efficaces de comptabilité commerciale. Bon, alors ça, Crosby donc identifie, fin du XIIIe, début du XIVe siècle, un moment de très grande accélération dans les procédures de quantification. Bon, mais ensuite, ce que je voudrais ajouter à ces arguments que je trouve très intéressants, c'est qu'il va y avoir dans les procédures de quantification une nouvelle accélération décisive qui va se produire, elle, dans la première moitié du XIXe siècle, avec une explosion, à ce moment-là, d'une quantification particulière sous la forme statistique. On peut dire qu'il va y avoir... à partir de 1820, c'est surtout dans la période entre 1820 et 1850, c'est assez resserré dans le temps, il va y avoir une accélération extraordinaire des pratiques statistiques qui vont déferler sur l'Europe. Ça va être une véritable avalanche de nombres. Alors, l'idée de la quantification généralisée du monde, c'était quelque chose qui n'était pas nouveau à cette époque, ça avait déjà été formulé, mais la mise en œuvre... certes, qui avait déjà commencé, véritablement s'est développé à cette époque-là. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi à cette époque-là, que se passe-t-il à cette époque-là pour expliquer cette explosion des pratiques statistiques. Alors, une idée dominante aujourd'hui, c'est que la statistique est une branche des mathématiques et que son utilisation pour appréhender les réalités humaines et sociales est finalement une extension du programme scientifique tel que Galilée avait pu le formuler au début du XVIIe siècle, c'est-à-dire le déchiffrement du livre de la nature par les mathématiques. un grand scientifique du 19e siècle, Lord Kelvin, a exprimé à la fin du 19e siècle, en termes très clairs, l'idée de quantification qui habite la science européenne moderne. Je vous cite, Kelvin, « Quand vous pouvez mesurer ce dont vous parlez et l'exprimer par des nombres, vous savez quelque chose à son propos. Mais quand vous ne pouvez le mesurer, quand vous ne pouvez l'exprimer par des nombres, le savoir que vous en avez est pauvre et insatisfaisant. Cela peut être le commencement du savoir, mais vous n'avez guère avancé dans vos pensées sur le chemin de la science, quel que soit le sujet considéré. » Fin de citation. Donc là, vraiment, on a une identification chez Kelvin entre la science et la possibilité de quantifier les phénomènes. Mais si on place ce jugement de Kelvin, si on en fait une simple émanation de ce qu'avait dit à peu près 3 siècles plus tôt Galilée, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Parce que pour Galilée, mathématiser le monde ne signifiait pas tant compter que géométriser. Je vous cite, je répète, je m'excuse de le faire parce que ça a été c'est en permanence cité, mais enfin bon, je le refais quand même, cette phrase ultra célèbre de Galilée, hein, qui écrit ça, c'est dans les années 1620, il dit « La philosophie est écrite dans cet immense livre qui est constamment ouvert sous nos yeux, je veux dire l'univers, mais on ne peut le comprendre si l'on ne s'applique d'abord à en comprendre la langue et à en connaître les caractères avec lesquels il est écrit. Il est écrit en langue mathématique et ses caractères sont des triangles, cercles et autres figures de géométrie, sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Sans eux, c'est une errance vaine dans un labyrinthe obscur. » Fin de citation. Mais vous voyez que là, ce dont parle Galilée, quand il pense aux mathématiques, ce n'est pas du tout au fait de compter, mais c'est au fait de géométriser. Quand il parle des caractères mathématiques par lesquels il faut déchiffrer le monde, il parle des triangles, cercles et autres figures de géométrie. On n'est pas dans la quantification. Alors, il est vrai que chez d'autres savants de la même époque, l'aiguillon de la quantification se faisait sentir. C'est l'exigence d'une théorie en parfait accord avec les observations astronomiques qui ont obligé Kepler à abandonner ses constructions géométriques à base de sphères et de solides platoniciens pour reconnaître que les planètes avaient en fait des trajectoires non pas circulaires mais elliptiques. Et c'est par des considérations numériques qu'il a été amené à formuler ses lois des mouvements planétaires. Mais il faut bien remarquer qu'à cette époque-là, en dehors du domaine restreint de l'astronomie, la précision manquait et il fallut attendre la première moitié du 19e siècle pour voir un changement important s'opérer sur cette question. Thomas Kuhn, qui est très très célèbre pour avoir clarifié la notion de révolution scientifique, distingue ce qu'il appelle les sciences classiques, astronomie, optique, statique et harmonie, des sciences qu'il appelle baconiennes, électricité, magnétisme, chimie, phénomènes calorifiques, etc., qui jusqu'à la fin du XVIIIe siècle sont demeurées essentiellement qualitatives. Et puis, c'est au cours de la première moitié du XIXe siècle que la recherche scientifique dans ces domaines change de caractère, que ces sciences que Kuhn appelle baconiennes se mathématisent et vont devenir quantitatives. Et l'événement paraît si important à Kuhn que loin de considérer celui-ci comme un simple prolongement de la révolution scientifique du XVIIe siècle, il parle à son sujet de deuxième révolution scientifique. Et la citation de Kelvin que je vous ai lue auparavant, elle apparaît après cette seconde révolution qui s'inscrit davantage dans le sillage de l'explosion des statistiques dont j'ai parlé, qui se produit au début du la première moitié du XIXe siècle, qu'elle ne l'inspire. Les statistiques, les pratiques statistiques ne sauraient être une extension au social d'une démarche scientifique, puisque en fait, elles ont précédé l'explosion de la quantification en science et que leur usage a commencé dans le social. Ce n'est que dans un second temps que le raisonnement statistique a été utilisé dans les sciences de la nature. Et la théorie mathématique de la statistique. Les fondements mathématiques des statistiques n'ont été véritablement posés que tardivement, au XXe siècle, dans les années, essentiellement dans les années 1920. Et donc vous voyez que cette conception qu'on pourrait avoir que la statistique, c'est un domaine mathématique qui va s'appliquer aux sciences et puis qui, à partir des sciences, va se répandre à l'appréhension de toutes les réalités, y compris humaines et sociales. En fait, il faut complètement inverser la chose. Les statistiques ont commencé à se développer dans le domaine humain et social. Ensuite, elles ont pénétré à l'intérieur des sciences de la nature. Et à partir du moment où elles sont devenues une méthode importante pour les sciences de la nature, elles ont vraiment été sérieusement mathématisées, sont devenues une discipline mathématique qui, à partir de là, est revenue, redescendue vers les sciences de la nature et vers le domaine social. Mais c'est dans le domaine social que la statistique a commencé à se répandre. D'ailleurs, quand on réfléchit au mot statistique, en fait, statistique, ça vient de état. Et donc, on voit bien que là, dans le mot même statistique, ça signale bien quelque chose qui a trait à la sphère étatique, mais donc en fait à la vie collective des hommes. Et que c'est seulement dans un second temps que ça va être, disons, ces méthodes-là vont devenir des méthodes scientifiques. Alors évidemment, la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qui a nourri l'avidité de l'Europe pour les nombres dans la première moitié du XIXe siècle, et en particulier pour les statistiques. La question n'a rien d'anecdotique, puisque un trait majeur de notre monde, et même un fait social total, parce que justement cette emprise des statistiques est un fait social, aujourd'hui un fait social total. Comprendre à quoi il répond et correspond est une voie d'entrée pour avoir une intelligence globale du monde dans lequel nous vivons. Alors, une piste pour répondre à cette question est de ne jamais oublier que si le monde humain peut être considéré comme un cas particulier du monde en général, en fait, c'est à l'intérieur de ce monde particulier que s'enracinent nos catégories de pensée, nos catégories à partir desquelles nous pensons le monde dans son ensemble. Là, je voudrais faire une citation qui me semble très importante en ce sens d'Émile Durkheim et Marcel Mauss. Voilà ce qu'ils écrivent au tout début du XXe siècle. Les premières catégories logiques ont été des catégories sociales. Les premières classes de choses ont été des classes d'hommes dans lesquelles ces classes ont été intégrées. C'est parce que les hommes étaient groupés et se pensaient sous forme de groupe qu'ils ont groupé idéalement les autres êtres. Et les deux modes de groupement ont commencé par se confondre au point d'être indistincts. Les fratries ont été les premiers genres, les clans les premières espèces. Les choses étaient censées faire partie intégrante de la société, et c'est leur place dans la société qui déterminait leur place dans la nature. Fin de citation. Pour avoir une trace de cela dans la langue que nous parlons aujourd'hui, c'est extrêmement simple. Hein. Au sein du français, par exemple, tous les substantifs sont féminins ou masculins. Bon, si on s'interroge sur l'origine de ce genre de classification, pourquoi tous les substantifs sont féminins ou masculins, bien, c'est évidemment parce que les sociétés humaines étaient essentiellement structurées autour de la différence entre les hommes et les femmes. Et puisque cette différence était la grande différence structurante pour la société humaine, elle a été projetée sur le monde en général, et donc tout les choses dans le monde se sont retrouvées classées du côté masculin ou du côté féminin. Mais il est bien évident que si un rat et une souris, en fait, ça n'est pas une qualité particulière des rats ou des souris qui les rend, qui les fait féminin ou masculin, c'est bien, on voit bien que ça ne peut être résulté que d'une projection, en fait, de cette différence entre le masculin et féminin qui est opérée entre les êtres humains et sur la nature. Donc le lien entre la façon dont nous envisageons le monde et la façon dont nous vivons et pensons le social a pu se complexifier depuis les états primitifs dont parlaient Durkheim et Mauss, mais il ne s'est pas rompu. Alors, selon le grand sociologue allemand du 19e siècle, du 20e, Simmel, pour Simmel, l'époque moderne a fait du calcul son idéal cognitif parce que c'est un monde dans lequel règne l'argent, je vous cite Zimmel, c'est l'économie monétaire qui est venue introduire dans la vie pratique et qui sait peut-être aussi dans la théorie l'idéal de l'expression chiffrée. Fin de citation. Alors là, vous voyez bien chez Zimmel cette idée que c'est d'abord quelque chose qui se passe dans le monde humain. La quantification, c'est quelque chose qui se développe d'abord dans le monde humain, dans les rapports entre les hommes, et qui ensuite va être projeté sur la nature. Et les hommes vont se mettre à quantifier la nature parce qu'ils ont d'abord quantifié les choses entre eux. Et alors d'après Zimmel, c'est parce que c'est l'expansion de l'économie monétaire qui induit cette quantification généralisée, puisque évidemment, dès qu'on entre dans une économie monétaire, les choses ont un prix, et donc en fait, tout est quantifié par ces échelles de prix. Alors, sans du tout m'inscrire en faux contre Zimmel, je peux dire que si le règne de l'argent a contribué puissamment à répandre et à renforcer un certain type de rapport entre les hommes, il n'en est pas l'origine, en tout cas pas l'origine unique. L'argent a certainement accentué l'importance du nombre dans les rapports des hommes entre eux, il ne l'a pas installé à lui seul. Et c'est dans les modifications de la façon que les hommes ont de faire société que se trouve, à mon sens, la source de l'empire du nombre, dont l'argent est un des aspects. Et les statistiques en sont un autre tout aussi significatif. Et donc, en fait, dans mon travail, ce que je me suis proposé d'étudier, ça n'est pas tant le développement de la statistique en tant que telle, parce qu'il y a eu un nombre incroyable d'œuvres, d'ouvrages qui ont été consacrés à cette question, que les raisons profondes qui ont présidé à ce développement statistique. Même si, évidemment, on ne peut pas complètement séparer l'étude des causes du développement du développement effectif. Ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de comprendre par quelle voie la démarche et les données statistiques en sont venues à constituer un fait social total, comme je l'ai dit, qui imprègne en profondeur nos vies. Alors, comme je l'ai dit, ce qui est à comprendre dans cette histoire-là, c'est ça se passe dans une période historique assez limitée, hein, je l'ai dit, la première moitié du 19e siècle, ça n'est pas l'existence de la statistique en elle-même, qui existait déjà auparavant, mais son explosion. C'est vraiment à ce moment-là que la statistique devient un outil essentiel et va devenir un médiateur extrêmement important dans le rapport des êtres humains au monde dans lequel ils vivent. Alors pour qu'il y ait explosion, évidemment, il faut quand même qu'il y ait des raisons particulières pour que ça explose à ce moment-là, mais il faut quand même qu'il y ait eu du combustible qui soit rassemblé, qu'il y ait un peu de matière première pour que ça puisse exploser. Alors de fait, comme je l'ai dit, les statistiques n'apparaissent pas au début du 19e siècle. Il y avait, au cours des siècles précédents, un certain nombre de procédures statistiques qui s'étaient développées. Alors, je vais aller très rapidement là-dessus, mais je dois quand même l'évoquer. En fait, on peut dire que l'esprit statistique va se développer à partir du 16e siècle en Europe, avec l'idée que ça correspond à un des traits saillants et caractéristiques de la modernité, c'est-à-dire la remise en cause des opinions et coutumes héritées auxquelles on aspire à substituer des jugements et des usages déduits d'un examen rationnel des choses et des situations. Et donc, pour examiner de manière rationnelle ces situations, eh bien, on sent le besoin d'être informé précisément, d'avoir des données tangibles sur la situation pour pouvoir ensuite adopter les meilleures conduites, les conduites les plus efficaces pour la mettre en ordre. Alors on en trouve énormément d'exemples dans la littérature dès le XVIe siècle. Un des grands auteurs de ce point de vue-là en France, c'est Jean Bodin, grand théoricien politique du XVIe siècle, penseur de la souveraineté de l'État et des principes du bon gouvernement. Et parmi justement les recommandations qu'il fait pour le bon gouvernement, il insiste lourdement sur la nécessité d'avoir des informations, que le gouvernement soit informé de manière fiable et quantifiée des États sur lesquels des États qu'il est amené à administrer. Et donc là, on voit se développer chez les penseurs politiques, dès le XVIe siècle, encore une fois, cette idée qu'il faudrait se livrer à la statistique. Alors cela étant, ce qui va se passer, c'est que chez les penseurs politiques, ils aimeraient qu'il y ait beaucoup de données statistiques. En fait, dans les faits, on en a beaucoup moins parce que simplement, de toute façon, matériellement, c'est extrêmement difficile à réunir lorsqu'on n'a pas une administration, un maillage du territoire avec des fonctionnaires qui sont là pour collecter les données. En fait, les deux pays où la statistique va se développer de manière la plus marquée à partir de la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, c'est d'une part l'Allemagne, d'autre part l'Angleterre, avec des différences très marquées entre les deux traditions, entre la tradition statistique allemande et la tradition statistique anglaise. Alors en Allemagne, d'ailleurs en fait le mot statistique, et la traduction en français du mot statistique allemand, c'est les Allemands qui ont inventé le mot statistique. Donc en Allemagne, la statistique a commencé par être une activité essentiellement descriptive et qualitative, une science de l'État, une Staatwissenschaft, destinée à renseigner les princes sur les réalités des territoires et des populations sur lesquelles ils régnaient. Alors, dans la statistique, on avait une description de la topographie, du climat, de la population, de l'organisation politique et judiciaire, de la production, du commerce. Il s'agissait de recueillir l'ensemble des connaissances susceptibles d'éclairer l'administration d'un État, de les classer et de les présenter de la façon la plus pertinente possible. Alors il y avait des nombres qui apparaissaient dans ces descriptions, mais enfin ils étaient noyés à l'intérieur de la description. Il s'agissait de décrire. Alors de temps en temps on pouvait, quand on disposait de nombres, les citer, mais enfin ça n'était pas aujourd'hui, quand on pense à statistique, on pense d'abord à des nombres. En fait, là, dans cette statistique allemande, les nombres étaient tout à fait marginaux. Il s'agissait de décrire aussi précisément que possible tout ce qui faisait la réalité politique et économique et topographique d'un État. Et puis alors, de l'autre côté, vous avez une autre tradition qui s'est développée en Angleterre, qu'on a appelée l'arithmétique politique, où là, les nombres ont d'emblée été présents. En fait, c'est à la fin du XVIIe siècle, enfin dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, qu'est officiellement fondée à Londres la Royal Society, qui était vouée à faire progresser les connaissances. Et la manière que les Anglais de la Royal Society avaient de concevoir les progrès de la connaissance à l'époque, c'était de concevoir une connaissance naturelle opposée à la connaissance surnaturelle, c'est-à-dire une connaissance que les hommes peuvent acquérir par la mise en œuvre des moyens naturels dont ils disposent. Et beaucoup de membres de la Royal Society, pénétrés qu'ils étaient de la doctrine empiriste, pensaient que la science se constituerait comme spontanément à partir des mesures qu'ils enregistraient des phénomènes naturels. Et donc à ce moment-là, on voit à la fin du XVIIe siècle en Angleterre, une sorte de mode arithmomaniaque, où un certain nombre de savants vont se mettre à mesurer à peu près tout et n'importe quoi. Et en fait, il va y avoir donc ce développement en Angleterre d'une statistique beaucoup moins ambitieuse qu'en Allemagne, puisqu'en Allemagne, la statistique avait pour ambition de décrire vraiment, de donner une idée générale d'à peu près tout. En Angleterre, on s'intéresse à des questions beaucoup plus particulières, mais en revanche, on essaye d'introduire de la quantification dans l'étude de ces questions, et c'est pour ça qu'on parle d'arithmétique politique. Arithmétique, c'est au sens, justement, arithmos en grec, c'est le nombre. Alors, une des questions auxquelles va beaucoup s'appliquer l'arithmétique politique, parce que c'était une question qui était extrêmement importante au XVIIIe siècle, c'est les questions de population. Ce qui peut paraître aujourd'hui ne constituer qu'un cas particulier de la statistique a été en fait une question tout à fait cruciale, c'était l'évaluation du nombre d'habitants d'un territoire. Alors le mot démographie n'est apparu qu'au XIXe siècle, pour la première fois en français. Là je disais que statistique c'était une création allemande, bon, démographie c'est une création française, c'est apparu pour la première fois en 1855. Mais si le mot est tardif, la préoccupation est beaucoup plus ancienne, en raison en particulier de l'association qui s'est développée à l'époque moderne entre population et richesse et puissance. Jean Bodin, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, disait, je le cite, « Il ne faut jamais craindre qu'il y ait trop de sujets, trop de citoyens, vu qu'il n'y a de richesse ni force que d'hommes. » Fin de citation. Et ça, c'était une opinion qui était partagée par à peu près tout le monde. Et donc, évidemment, on peut dire que si aujourd'hui nous sommes dominés par une idéologie du produit intérieur brut, en fait, au XVIIe, au XVIIIe siècle, les gens étaient dominés par une idéologie de la croissance aussi, mais ce n'était pas du produit intérieur brut, c'était de la population, qui était vue comme le meilleur indice de la richesse, de la prospérité des royaumes et des nations. Alors, on pourrait se dire, bon, bah, puisque la question de la population était si importante, on a dû procéder à des recensements. Ben, en fait, non, on avait beaucoup de mal à procéder à des recensements. Alors, il y avait beaucoup de raisons qui s'opposaient au fait de pouvoir entreprendre des recensements généraux. La première raison, c'était des raisons religieuses. Comme vous savez, dans la Bible, on s'aperçoit que ça peut être très risqué de procéder à des recensements, en particulier le fameux épisode où David recense son peuple. Il compte, plus exactement, il fait un dénombrement de son peuple, et puis ben, juste après qu'il a procédé à ce dénombrement, il se rend compte qu'il a commis un affreux péché. Et d'ailleurs, il va y avoir le châtiment qui va arriver juste après, puisque finalement, il va y avoir une peste. Dieu va envoyer une peste sur le peuple des Hébreux qui va, je crois, tuer le tiers de la population. Et en fait, donc, on voit qu'il y a une tradition biblique qui fait des dénombrements quelque chose d'extrêmement dangereux. Bon, par ailleurs, il y avait l'aversion des populations pour une opération en laquelle, non sans raison, elle voyait la promesse de nouveaux impôts, parce que pourquoi les gouvernements voulaient compter, dénombrer les gens, c'était en général pour calculer ce qu'il était possible de réclamer comme impôt. Donc évidemment, les gens avaient été tentés de se soustraire à ces procédures et à les voir d'un très mauvais œil. Et puis il y a une dernière chose qu'on doit prendre en compte, c'est l'antagonisme entre la logique étatique qui poussait donc à développer les pratiques statistiques en vue d'un gouvernement rationnel, et d'autre part la logique d'Ancien Régime qui était tout à fait contraire à cette idée de dénombrement. Vous savez d'ailleurs qu'à l'époque de la Révolution, ces dénombrements vont être très, vont poser de graves problèmes à la monarchie qui d'ailleurs ne va pas y résister. Ben pourquoi ? Parce que simplement, par exemple, c'est ce que fait Sieyès au moment en 1789, c'est que quand les États généraux sont réunis, bon, il y a les trois États qui sont représentés, hein, la noblesse, le clergé et le tiers État. Bon, ben, si on fait des comptages, on s'aperçoit que le tiers État représente 96% de la nation. Donc c'est mauvais pour une société d'ordre parce que ça fait vraiment apparaître que précisément c'est des minorités minuscules qui dirige l'ensemble des choses. C'est pour ça que l'Ancien Régime était vraiment entre deux chaises, si je puis dire. C'est-à-dire que pour se sauver, il voyait qu'il fallait qu'il se modernise. Et donc, à ce moment-là, il avait besoin de plus en plus, il avait envie d'avoir de plus en plus de statistiques. Mais d'un autre côté, il voyait que si la mentalité statistique se développait, en fait, ça minait les principes de l'Ancien Régime. Et donc c'est pour ça qu'en fait au XVIIIe siècle, c'est un siècle où d'un côté on aspire à avoir des statistiques, les gouvernements aspirent à avoir des données statistiques et en même temps ne se donnent pas vraiment les moyens de les réunir. Alors qu'est-ce qui va faire que finalement les statistiques, je suis obligé d'aller extrêmement vite, mais qu'est-ce qui va faire qu'au début du XIXe siècle, les statistiques là vont exploser, comme je l'ai dit? C'est en fait que les structures anciennes des sociétés européennes vont voler en éclats sous deux grands événements qui sont d'une part la révolution industrielle et d'autre part la révolution politique. La révolution industrielle, bon, le pays emblématique pour cela, c'est l'Angleterre, et la révolution politique, le pays emblématique pour ça, c'est la France. Et en fait, on a ces deux révolutions qui vont se produire finalement sous des modalités très diverses, mais dans tous les pays d'Europe. Et c'est ça qui va véritablement permettre, enfin appeler, à la fois permettre et appeler cette explosion statistique qui va se produire dans la première partie du XIXe siècle. Alors, pourquoi cet appel ? Bon, d'une part, effectivement, je vous ai dit que il y avait une sorte d'antagonisme entre l'esprit statistique et la logique d'Ancien Régime. Bon, ben, on comprend qu'une fois que l'Ancien Régime a volé en éclats, il n'y a plus cette réticence, et donc on va pouvoir se livrer sans remords à l'esprit statistique. Mais pourquoi en a-t-on autant besoin? Et là, il faut comprendre que ce qui se passe à cette époque-là en Europe est un mouvement d'ampleur absolument extraordinaire. C'est ce qu'on pourrait appeler l'avènement des sociétés d'individus. Alors évidemment, ça ne se fait pas en un jour. Et en fait, ça a des racines extrêmement anciennes. Et puis, c'est un processus qui, justement, va se prolonger, qui est encore à l'œuvre aujourd'hui. Et disons qu'il y a, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, il y a vraiment quand même une accélération à l'intérieur de ce processus qui va profondément changer la situation. Alors, quand je parle de l'avènement de société des individus, il y a deux mots dans cette histoire-là, il y a société et individu, et les deux vont de pair. En fait, si on prend le mot individu, ça vient du latin individuum, qui a servi pour les Romains à traduire le grec atomos, atome, qui littéralement veut dire ce qui ne peut pas se couper. L'individu, c'est ce qu'on ne peut pas couper. Alors, pour quelle drôle d'idée d'avoir été prendre ce mot individu pour qualifier les êtres humains. Pourquoi qualifier les êtres humains d'individus? En fait, dans le latin médiéval, le mot individu servait à désigner l'objet indivisible auquel on parvenait au terme d'un processus de division. On partait du genre, qui se subdivisait en espèces. Après, à l'intérieur des espèces, on avait des variétés. Et puis, en subdivisant les variétés, on arrivait à un moment où justement il fallait arrêter de subdiviser. C'était le moment où ça s'arrêtait, l'individu. Et à partir du XVIIe siècle, il va y avoir un retournement très curieux qui va s'opérer. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où on va se mettre à employer le mot individu pour désigner un membre de l'espèce humaine. Et c'est aussi le moment où l'individu de terme d'une division se mit à être envisagé comme point de départ à partir duquel le monde humain se constitue. J'aime bien le résumer en une formule, c'est que anciennement, je était le singulier de nous, alors que ensuite, nous va devenir le pluriel de je. C'est-à-dire qu'en fait, auparavant, l'individu existait en tant que membre d'une communauté, alors que dans l'esprit moderne, en fait, c'est l'être isolé qui devient la brique élémentaire à partir desquelles va se construire la société. Alors ce retournement va de pair avec un changement dans la forme générale de la pensée. Le monde antique et médiéval était formé d'éléments foncièrement hétérogènes, mais qui formaient tous ensemble un cosmos, c'est-à-dire un tout harmonieux. Et la clé pour pénétrer cet ordre harmonieux était l'analogie, qui faisait se correspondre les différentes strates de l'être et les mettait en résonance. Et l'homme trouvait sa place à l'intérieur du cosmos en s'insérant comme il convenait dans le gigantesque réseau analogique dont le cosmos était tissé. La pensée moderne, elle, est naturaliste. Elle conçoit le monde comme foncièrement homogène dans sa matière. Et l'événement emblématique du passage de l'ancien mode de pensée au nouveau est l'avènement du système de Copernic qui efface la frontière si structurante pour les anciens entre le monde terrestre et le monde céleste. Et à partir du moment où c'est ça le véritable enjeu du passage au système de Copernic, si on voit le passage du système de Ptolémée au système de Copernic comme étant simplement une histoire de théorie astronomique, on ne comprend absolument pas pourquoi ça a déchaîné les passions. Hein, après tout, que la Terre tourne autour du Soleil ou le Soleil autour de la Terre, on s'en fout un peu. Enfin, dans la vie quotidienne, on s'en fout un peu, quoi. Enfin, bon, ça, pourquoi ça a provoqué un tel émoi? C'est parce qu'en fait, il n'était pas simplement question d'astronomie, mais véritablement de conception générale du monde. Et à partir du moment où on fait de la Terre une planète parmi les autres, en fait, ça veut dire que le monde terrestre n'a aucun privilège par rapport au reste. Et en fait, ça va homogénéiser matériellement le monde entier. C'est pour ça que la physique, justement, auparavant, il y avait une physique terrestre et une physique céleste. Eh bien, en fait, à partir de ce moment-là, il va y avoir une seule physique, une unification par les lois de la nature. bon, ce qui sera illustré de manière spectaculaire par Newton. Mais en même temps que le monde, à ce moment-là, devient homogène matériellement, il va y avoir une césure entre ce monde homogénéisé et l'être humain, entre ce que Descartes appelle la substance étendue et la substance pensante. L'être humain n'est plus une singularité parmi d'autres singularités, il est le seul désormais à être véritablement singulier en tant que seul pourvu d'une intériorité. Au sein du monde, sa conscience se trouve comme insularisée. Et alors, à ce moment-là, bon, on peut retrouver au XIXe siècle, il y a une citation que j'aime bien de Nietzsche qui exprime ça, hein, il dit « Chaque âme a son monde propre, pour chaque âme, chaque autre âme est un arrière-monde ». Vous voyez que là, à ce moment-là, s'installe entre les êtres humains une forme d'incommensurabilité. Et parce que chaque individu transcende par sa pensée le monde matériel, aucune hiérarchie a priori ne peut plus être justifiée entre ces individus. Ce qu'exprime à sa manière d'ailleurs la formule cartésienne, hein, qui veut que le bon sens soit la chose du monde la mieux partagée. Et c'est ce qui fait que même si dans les faits d'immenses inégalités vont perdurer, celles-ci vont se déployer désormais sur fond d'une égalité de principe. Et c'est ça qui va permettre ce retournement justement, où auparavant on avait un ordre général et la mission pour chaque être humain c'était de s'insérer à l'intérieur de cet ordre, alors que désormais on va plutôt penser les êtres humains comme la donnée première qui est, qui doit, et c'est à ces êtres humains qu'il revient ensuite de produire leur propre organisation. Et cette nouvelle conception de l'individu donc entraîne nécessairement un bouleversement dans la manière de penser la vie collective. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il va y avoir cet immense succès du mot « société ». En latin, le champ sémantique du mot « societas » était très large, mais le terme désignait préférentiellement ce qu'on appellerait aujourd'hui une association, une union, une alliance, une mise en commun sur une base volontaire, active et intéressée. Fait significatif, en latin, la locution « sociale bellum », qu'on pourrait traduire mot à mot par « guerre sociale », n'évoquait pas du tout pour les Romains un conflit interne à Rome, mais la guerre qui éclata en 90 avant Jésus-Christ entre la République romaine et ses alliés italiens mécontents de leur statut. Et les définitions qu'au XVIIe siècle on donnait du terme « société » s'inscrivent tout à fait dans cette lignée. Je vous cite par exemple la définition qu'on trouve dans le dictionnaire de Richelet en 1680, société, deux points, contrat de bonne foi par lequel on met en commun quelque chose pour en profiter honnêtement. Vous voyez, c'est très net. Et donc, en fait, on voit que là, à cette époque-là, la société ne désigne pas les formations humaines en général, mais seulement celles qui résultent d'un contrat orienté vers un but. Et donc, on comprend pourquoi le mot société va avoir une telle fortune à l'époque moderne. C'est que concevoir le monde humain comme société, c'est sous-entendre que l'individu préexiste à la vie en commun et qu'il n'entre dans cette vie en commun que par un acte délibéré. Ce ne sont pas les individus qui reçoivent l'existence de la société, c'est eux qui constituent la société parce qu'ils le veulent ainsi et parce qu'ils en attendent des bénéfices. Bon, je pourrais multiplier les exemples, les dictionnaires de Furtière, de l'Académie française, mais pas seulement en France, hein, en Angleterre, c'est exactement la même chose. Donc penser la vie en commun en termes de société, c'est concevoir cette vie sur un monde contractuel et utilitaire. Et une telle conception nécessite une dissociation préalable des anciennes communautés pour en abstraire les individus qui ensuite sont appelés à vivre ensemble en société. Un grand sociologue allemand du XIXe siècle, Ferdinand Tönnies, qui a écrit son grand livre « C'est Gemeinschaft und Gesellschaft »,« Communauté et société », a très bien saisi le fait que quand on emploie à l'époque moderne toujours le mot « société » pour désigner n'importe quel type de vie collective, on passe complètement, ça nous fait complètement passer à côté de ce bouleversement du passage d'une vie en communauté à une vie en société. Et Ferdinand Tönnies écrit « D'après la théorie de la société, celle-ci est un groupe d'êtres humains qui, comme dans la communauté, vivent et habitent paisiblement les uns à côté des autres, mais qui, au lieu d'être essentiellement liés, sont bien plutôt essentiellement séparés. Et alors que dans la communauté, ils restent liés en dépit de tout ce qui les sépare, dans la société, ils restent séparés en dépit de tout ce qui les relie. » Fin de citation. Donc la société n'unit les hommes qu'après leur dissociation préalable en individus séparés et ne les unit qu'en tant qu'individus séparés. Et la fortune extraordinaire du mot à l'époque moderne et contemporaine est liée à cette opération. Et d'ailleurs, au passage, je peux signaler que la locution contrat social est d'une certaine manière un pléonasme, puisque, comme je l'ai essayé d'expliquer, dans l'idée de société, c'est ce qui a fait sa fortune, c'est précisément qu'elle contient cette idée contractuelle. Et vous voyez ce que dit Sieyès, un grand penseur de la Révolution française en 1789, « Les volontés individuelles sont les seuls éléments de la volonté commune. » Il dit aussi « Qu'est-ce que la volonté d'une nation ? C'est le résultat des volontés individuelles, comme la nation et l'assemblage des individus. » Vous voyez qu'en fait, de ce point de vue-là, la pensée politique de la Révolution est en fait la mise à jour différée de cette nouvelle conception de la vie collective qui passe du paradigme de la communauté au paradigme de la société. Je vous cite aussi une phrase d'un député à la Constituante qui écrit, toujours en 1789, « La nation française est une société d'environ 25 millions d'individus vivant sous une constitution ou système de loi qu'elle s'est faite sur un espace d'environ 29 000 lieues carrées. » C'est extrêmement net. Et quant à la composition de la loi, toujours selon le même député, elle ne connaît que la grande association qui nombre les têtes et non les classes, qui compte et ne pèse pas. Alors évidemment, comme vous le savez, au sortir de la Révolution, un certain nombre de formes anciennes seront réhabilitées, mais malgré tout, leur statut ne sera plus le même. Il y a un texte extraordinaire aussi, le texte du Concordat de 1801, qui débute ainsi. Bon, vous savez qu'après les conflits qu'il y a eu entre la nation française et puis le Saint-Siège, bon, il y a eu un raccommodement sous le consulat, sous l'autorité de Bonaparte. Donc il y a eu un concordat signé entre la France et le Saint-Siège. Voilà comment le texte de ce concordat commence ainsi. C'est extraordinaire. Le gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français. Fin de citation. Alors, d'un côté, vous voyez que les conflits qui ont opposé la nation française à l'Église pendant la période révolutionnaire sont apaisés, un accommodement est trouvé. Mais de l'autre, le lien entre la France et la religion catholique a changé de nature. Avant, on disait la France est la fille aînée de l'Église, donc c'était un lien filial. Et vous voyez que maintenant, quel est le lien de la France à la religion catholique ? Eh bien, c'est simplement que la religion catholique est la religion de la grande majorité des citoyens français. C'est un fait statistique. Vous voyez que là encore, on voit apparaître la portée politique maintenant de la statistique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement là pour renseigner sur la réalité, mais elle est là pour donner forme à la réalité. C'est en vertu de cette donnée statistique que la religion catholique va avoir un statut particulier en France, simplement parce que c'est un fait majoritaire. Mais vous voyez que d'ailleurs, en fait, avec ce type de position, en fait, bon, bah, on constate simplement qu'à cette époque-là, la religion catholique est la religion de la majorité des Français, mais il se peut très bien que, une décennie ou des siècles plus tard, bah, ce ne soit plus le cas, et à ce moment-là, bon, bah, voilà, ça ne posera aucun problème d'une certaine manière, il suffira d'en prendre acte, puisque le lien n'est plus un lien essentiel, mais simplement un lien statistique. Et la dynamique, même si la Restauration a essayé avait pour idéal de restaurer, comme son nom l'indique, l'Ancien Régime, en fait, la dynamique individualisante était bien trop puissante pour qu'elle pût être contrecarrée. Et Royer-Collard, un député de l'époque, en a dressé un constat tranchant. Je vous cite, « Nous avons vu la vieille société périr. » Alors, il dit « vieille société », en fait, avec tous les guillemets qu'il faudrait mettre autour de société, puisque précisément, cette vieille société n'était pas vraiment une société, mais bon. « Et avec elle, cette foule d'institutions domestiques et de magistratures indépendantes qu'elle portait dans son sein, faisceau puissant des droits privés, vraie république dans la monarchie. Pas une n'a survécu et nul autre ne s'est élevé à leur place. La révolution n'a laissé debout que les individus. Spectacle sans exemple, on n'avait encore vu que dans les livres des philosophes une nation ainsi décomposée et réduite à ses derniers éléments. » Fin de citation. Et alors enfin, à cette époque, eh bien, l'administration, quand la tutelle des tenants de l'ancien régime aura disparu, va pouvoir compter librement, sans inquiétude, sans restriction mentale et sans remords. Mais non seulement elle n'a plus d'objection, il n'y a plus d'objection à compter, à se livrer aux statistiques. Ça, bon, à l'époque de la Restauration, ça posait encore problème, mais dès la monarchie de Juillet en France, cela disparaît. Mais d'autre part, ça va devenir de plus en plus une nécessité pressante. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec ce que Royer-Collard dit, la disparition de la vieille société, enfin la dissolution des anciennes communautés, de tous les corps intermédiaires qui existaient auparavant, de ce point de vue-là, d'ailleurs, pendant la Révolution, la loi Le Chapelier a été tout à fait emblématique de cela, hein, qui interdisait précisément l'interposition de tout corps intermédiaire entre, d'un côté, l'État et, de l'autre, les citoyens individuels. Donc, voilà. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que on pouvait penser que sous les effets conjugués de la diffusion des doctrines libérales, du développement de l'économie marchande, des avancées de la démocratie, de l'égalisation juridique des conditions, en fait, l'appréhension des réalités humaines se trouverait grandement facilitée par rapport à l'ancien État où finalement la réflexion rationnelle était bloquée en permanence par des frontières, des distinctions, des statuts particuliers, etc. Là, on se dit, voilà, le champ est ouvert entièrement à la réflexion rationnelle. La réflexion rationnelle va pouvoir se saisir de cette nouvelle société d'individus de manière tout à fait transparente, pour employer un mot à la mode. Mais en fait, ces particularités de l'ancienne société, vous voyez le mal qu'on a aujourd'hui à trouver un mot tellement société s'est imposée. Donc ces particularités qui ne cessaient de faire obstacle à une saisie unifiée constituaient pourtant dans le même temps autant d'éléments auxquels la pensée pouvait se référer, comme les irrégularités d'une paroi qui en altère la surface offre aussi les prises qui permettent de l'escalader. Et l'apparente simplicité formelle de ce que certains, dans la première moitié du XIXe siècle, qualifièrent en France de société en poussière, se révéla très vite un leurre. Cette société avait une vie autonome et complexe, dont il s'avérait d'autant plus malaisé de pénétrer les énigmes que les structures a priori avaient été balayées. Et à des degrés divers, la perplexité était partout de mise en Europe. Si en France, par exemple, c'est la révolution politique qui a vraiment balayé les structures d'Ancien Régime, en fait, dans une large mesure en Angleterre, la révolution industrielle va avoir les mêmes effets en déracinant les gens de la vie traditionnelle qui vivaient dans les campagnes pour les masser dans les grandes villes industrielles et en faire d'immenses foules prolétariennes. Et à des degrés divers, donc la perplexité était partout de mise en Europe, la question de la société s'affirma comme le problème tout à la fois philosophique et pratique le plus important du siècle. Et c'est en regard de ce problème que l'essor sans précédent de la statistique doit être envisagé. Essor permis certes par le développement des réseaux et des administrations propres à recueillir les données, mais en premier lieu, l'efflorescence statistique répondait à une attente engendrée par les nouvelles configurations sociales. Tout d'un coup, on se retrouvait devant un objet tout à fait mystérieux, qui était justement une société d'individus. Ça n'avait jamais existé par le passé, on se retrouvait confronté à cela, et alors qu'on imaginait que c'était très facile à saisir, parce que d'un côté il y avait l'individu, de l'autre côté le tout, en fait on s'est aperçu, et c'est là ce qui va expliquer qu'au XIXe siècle, c'est le siècle aussi où va apparaître la sociologie comme une nouvelle science, c'est parce qu'on se retrouve avec la société d'individus devant un nouveau type d'objet qu'on ne sait pas maîtriser, qu'on n'arrive pas à comprendre, et qui fait apparaître un tas de phénomènes tout à fait nouveaux, étranges, et comment essayer de les appréhender, on ne sait pas trop. Alors il va y avoir de multiples stratégies qui vont être développées pour cela, mais une des stratégies qui va vraiment connaître un énorme succès pour essayer de comprendre ce que c'est que ce nouveau machin auquel on a affaire, eh bien ça va précisément être la statistique. Louis Chevalier, dans son livre très important sur le XIXe siècle, parle de mentalité statistique, d'impérialisme statistique, de torrent statistique, d'entreprise statistique ayant les dimensions d'une cosmogonie. Alors on fait des statistiques pour tout, pour la démographie, pour l'industrie, pour le commerce, pour l'agriculture, pour la médecine, pour l'hygiène, pour la morale, pour l'enseignement, pour le crime. On fait de la biométrie, on fait des statistiques pour les assurances, enfin absolument pour tout. Et en fait, un des, quand même, des grands moteurs, c'est, j'insiste beaucoup, c'est de cette efflorescence statistique, c'est l'émergence au cours du 19e siècle de la, ce qu'on va appeler la question sociale. Social problem en anglais, soziale Frage en allemand. L'expression est apparue dans les années 1830. Et vous voyez, elle apparaît dans les années 1830 et j'ai dit que c'est entre 1820 et 1850 que véritablement il y a une explosion statistique. Et là, vous voyez une concomitance qui est tout à fait significative. Et à la toute fin du 19e siècle, beaucoup de philosophes s'accordaient à reconnaître dans la question sociale véritablement la question centrale du siècle, et également le mal du siècle aussi, il faut le dire, puisque dans l'ambiance optimisme du XVIIIe siècle, on imaginait que le développement de l'industrie et du commerce allait pacifier la société et la rendre agréable pour tous, et que l'égalité politique et juridique des citoyens offrirait à chacun une existence digne et à l'abri du besoin. Et puis, bon, si le XIXe siècle a compris partiellement la promesse, puisque la richesse globale augmente considérablement, en même temps, le 19e siècle voit apparaître un phénomène tout à fait inédit, imprévu, massif, déprimant et dangereux, le paupérisme. Et le mot paupérisme fait son apparition en 1815 en Angleterre et quelques années plus tard seulement en France. Et le néologisme signale bien que l'on a affaire à un phénomène lui-même nouveau qui frappe énormément les contemporains. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, on peut suivre véritablement les choses pas à pas et apercevoir que le développement, le tourment causé par ce qu'on a appelé la question sociale, c'est-à-dire en fait le développement d'une immense classe prolétarienne extrêmement vivant aux limites de la misère, voire dans la misère, en fait, a été une source d'inquiétude permanente. Et pour essayer de conjurer cette inquiétude et essayer de trouver les bonnes mesures à prendre pour conjurer le danger, eh bien, il fallait se renseigner. Comment se renseigner sur ces immenses foules? Eh bien, en faisant de la statistique. Et donc, en fait, c'est vraiment dans le social que, si vous voulez, le souci statistique trouve son ancrage. Et là, de ce point de vue-là, on voit très bien que l'essor statistique dont j'ai parlé, ça ne vient pas du tout, si vous voulez, d'une mentalité scientifique qui se projette sur la société, mais ça vient d'abord problème social qui, quand on est confronté à ce problème social, on va chercher par tous les moyens d'y faire face. Et pour se renseigner sur ce problème, eh bien, c'est ça qui va entraîner l'explosion des pratiques statistiques. Alors, en même temps, va se développer, comme je l'ai dit, au 19e siècle, va apparaître au 19e siècle une nouvelle science, la sociologie, spécialement voué à l'étude de ce nouveau truc qu'on n'avait jamais vu, qui est la société d'individus. Alors les rapports entre sociologie et statistique sont très compliqués, puisque certains comme Auguste Comte le refusaient complètement, alors que d'autres, au contraire, pensaient que la statistique était un outil essentiel pour le développement de ça, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails ici. Ce que je voudrais simplement dire dans les rapports de la statistique à la science, ce n'est que dans la deuxième moitié du 19e siècle que la statistique va entrer dans les sciences de la nature. Elle va y entrer de deux manières, par la thermodynamique, c'est-à-dire en fait Maxwell-Boltzmann, qui vont essayer de comprendre comment les propriétés macroscopiques de la nature peuvent se concilier à une idée atomiste de la nature. Alors si on suppose que toute la matière est formée de particules élémentaires, à ce moment-là, les particules élémentaires, elles sont soumises à un certain nombre de lois à leur niveau. Et puis, ce que nous, on observe, c'est une certaine réalité macroscopique. Alors, pour essayer de faire le lien entre les deux, le problème, c'est qu'on ne peut pas suivre les particules une à une, puisqu'on s'est aperçu au 19e siècle que si les atomes existaient, ils étaient monstrueusement petits, et que, il y en avait des 10 puissance 23, 25, enfin, bon, des noms absolument colossaux. Et donc, comment finalement faire le lien entre ce nombre colossal de particules et puis les réalités microscopiques, eh bien, on s'est dit que si la réalité qu'on expérimentait était le résultat de l'interaction de milliards, de milliards, de milliards de particules, la seule manière de faire le lien, ben, c'était d'utiliser des méthodes statistiques. Et en fait, ce qui a donné aux physiciens l'idée de s'en remettre aux statistiques, c'est précisément parce que elles avaient, leur usage était apparu dans l'étude des réalités sociales. Donc là, c'est pas du tout, la statistique n'a pas du tout été au 19e siècle, si vous voulez, une méthode de physicien qui a été appliquée à la société. C'est au contraire les physiciens qui se sont inspirés des méthodes qui marchaient assez bien pour la société, en se disant que ça devrait marcher encore mieux avec les particules élémentaires. Puis le deuxième domaine scientifique où la statistique va entrer, c'est en 1859, le grand livre de Darwin sur l'évolution naturelle par la sélection naturelle. Et à ce moment-là, on va se poser les questions de l'hérédité. Ça devient extrêmement important, puisque en fait, à partir du moment où on rentre dans cette idée d'évolution, il faut supposer qu'il y a un certain nombre de caractères qui se transmettent des parents aux enfants. Bon, bah, on sait bien que, en gros, les enfants héritent de caractères qui viennent de leurs parents. De l'autre côté, l'expérience montre aussi que les enfants ne sont pas des répliques de leurs parents, qui sont différents. Et donc, en fait, se pose la question de la part d'hérédité, si vous voulez, qui passe des parents aux enfants. On voit bien qu'il y a quelque chose qui passe, mais qu'à notre côté, les enfants ne sont pas identiques aux parents. Donc, en fait, évidemment, se pose pour les biologistes, à ce moment-là, la question d'essayer de quantifier l'hérédité de génération en génération. Et là encore, comment faire ? Eh bien, sinon, en s'en remettant à la statistique. Et c'est comme ça que la statistique va entrer en biologie et va énormément servir, en particulier, ensuite, au développement des théories eugénistes. Parce que, évidemment, de l'hérédité, à cette époque-là, on passe très très vite à l'eugénisme. D'ailleurs, on y revient au grand galop aujourd'hui. Alors, pour terminer, dans cette histoire que j'ai parcourue au pas de charge, je voudrais souligner le rapport ambivalent que nous autres individus modernes avons au nombre en général et aux statistiques en particulier. Nous sommes réputés être des individus libres, chacun singulier, et en tant que tel, foncièrement incomparable aux autres. La dignité de chacun d'entre nous suppose qu'aucun n'est là simplement pour faire nombre. Elle repose sur le caractère unique de chaque personne et sur, d'une certaine manière, son incommensurabilité. Mais d'une manière un peu paradoxale, le principe d'égalité résulte de ce caractère d'incommensurabilité. Parce que faute de pouvoir comparer des singularités absolues, il faut les traiter de façon égale, sans discrimination. Et pour cela, comment faire sinon s'en remettre à de l'objectif ? Et donc on aboutit à cette situation que plus les subjectivités s'affirment, plus l'objectivité devient naturelle pour respecter la justice entre ces subjectivités. Ce qui signifie, dans une société nombreuse, mesurer, compter, faire de la statistique. La place prise par la mesure quantitative dans le monde humain n'est pas le résultat d'un envahissement de ce monde par la démarche scientifique. C'est le monde humain qui a imposé la mesure au point d'avoir, sur le chapitre des statistiques, avoir été en avance sur la science. Les statistiques ont explosé car elles étaient l'instrument adapté à la connaissance d'un monde engendré par une coexistence d'individus libres et égaux. Le monde n'est plus régi d'en haut ou a priori. Sa marche résulte de l'amalgame de la multitude de comportements individuels et les statistiques s'imposent comme l'instrument adéquat pour saisir cet amalgame. Plus les individus s'individualisent, plus, en fait, ils forment masse à l'intérieur de la société et les statistiques sont un moyen, finalement, de faire le lien entre les individus et la masse que tous ensemble, ils constituent. Alors, l'incommensurabilité des différentes subjectivités invite à ne se soucier que des aspects commensurables, précisément. C'est-à-dire que c'est paradoxalement, encore une fois, l'incommensurable qu'il y a entre chacun de nous qui induit au règne du quantitatif. Comment justifier une action à l'échelle d'une société et échapper à l'accusation d'arbitraire ? Eh bien, on s'en remet à des données statistiques. Voilà pourquoi aujourd'hui, littéralement, les statistiques nous collent à la peau. Alors en même temps, évidemment, on s'en plaint beaucoup, on leur reproche d'être impersonnel. Et c'est là encore, on voit tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on leur reproche, dans leur impersonnalité, précisément ce qui fait aussi leur qualité, c'est précisément d'être objective et de ne pas donner la préférence à l'un plutôt qu'à l'autre. Alors évidemment, on se plaint qu'elles ne connaissent de la personne que ce qui se mesure, autant dire que la personne en tant que telle leur échappe, et on a beau multiplier les critères, il est impossible de faire coïncider le moi avec cet ensemble de critères, et cela nourrit la sensation de ne jamais être pris en compte comme il le faudrait. Mais d'un autre côté, les statistiques sont un rappel permanent que le rassemblement des libertés engendre un monde en fait extrêmement rigide, auprès duquel d'ailleurs on peut dire qu'un supertanker est aussi maniable qu'un hors-bord. Le monde que nous formons est d'autant plus rigide que les individus sont nombreux. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. La liberté de tous aboutit au fait que les lois statistiques sont de mieux en mieux vérifiées. Les statistiques sont d'une certaine manière le symbole d'un monde où l'individu se sent mal reconnu ou opprimé par la masse. Il y a une phrase de Dostoïevski qui est extraordinaire de ce point de vue-là dans L'homme du souterrain. L'homme du souterrain s'écrit à un moment donné « Moi, je suis seul et eux, ils sont tous ». Bon. Et en fait, c'est aussi cela qu'exprime la statistique. C'est la force de tous les autres qui composent le monde dans lequel moi, en tant que singularité, je suis appelé à vivre. Le nombre formé par la réunion des singularités est ce qui s'impose à chaque singularité, et leurs revendications d'unicité vont de pair avec le fait de n'être qu'un parmi la foule et d'une certaine manière d'en être réduit à faire nombre. Bon, ce sont donc les mêmes singularités, j'insiste sur ce point, qui exigent le nombre et qui en souffrent. C'est l'incommensurable entre les êtres qui amène à les traiter comme des unités de calcul. L'exigence d'égalité débouche au sein de grands ensembles humains sur des procédures d'équivalence. L'individualisation engendre la masse et les êtres les plus singuliers deviennent les plus interchangeables. L'égalité suppose la différence et la surmonte. L'équivalence l'oubli. Alors, de ce fait, on a des réactions de rejet permanentes. Il y a une phrase très célèbre qui est attribuée à Disraeli, le premier ministre anglais du 19e siècle. En fait, ça ne vient pas de lui, mais bon, c'est un peu comme en France, vous savez, quand une phrase, on ne sait pas d'où elle vient, on dit c'est de Clémenceau, ou en Angleterre, c'est Disraeli. Mais enfin, il disait, Disraeli, « There are three kinds of lies, lies, damn lies and statistics. » Il y a trois sortes de mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. Bon. Voilà, bon, on peut tous partager ce genre d'opinion. Mais d'un autre côté, il faut être conscient qu'on se plaint de maux dont on continue d'entretenir les causes. On peut d'autant moins se passer des statistiques que, en même temps qu'on les accuse d'objectiver indûment, de catégoriser arbitrairement et de simplifier abusivement le réel, on ne cesse de réclamer pareilles objectivations. Et puis, autre ambiguïté, vis-à-vis de la sorte de nécessité que les statistiques indiquent. On leur reproche en fait finalement d'induire, on pourrait dire, d'écraser la singularité autour d'un monde tellement rigide qu'on n'y peut rien. Mais d'un autre côté, ce que nous indique aussi la statistique, elles font aussi référence dans un monde qui, en répudiant un certain nombre de structures a priori, en fait, justement, bon, les êtres humains que nous sommes savent de moins en moins à quoi se référer pour régler leur conduite. Et finalement, c'est là que s'implique, qu'apparaît le règne de la normalité au lieu du bien. En fait, au lieu d'essayer de se comporter bien, il faut essayer de se comporter finalement... Quel est le critère du bien qu'on peut prendre? Finalement, c'est d'être normal. Et qu'est-ce qui est normal? C'est finalement ce que tout le monde fait. Et donc, il y a en fait là, ici, une normalité qui s'impose comme référence. Il y a un livre d'ailleurs, un roman de Moravia qui est extraordinaire là-dessus, qui s'appelle Le Conformiste, et qui montre très bien un personnage qui, à partir du moment où on ne lui a pas donné les cadres moraux pour orienter ses activités, finalement, il va avoir d'autres ressources que de regarder comment les autres font et calquer son comportement sur ce que font les autres. Et finalement, qu'est-ce que font les statistiques sinon nous dire précisément ce que font les autres. Donc c'est un des problèmes de l'individualisme que d'appeler à la fois le règne des statistiques et la haine des statistiques. Cette haine va jusqu'à conduire certains à faire du nombre une invention diabolique. Il y a une phrase d'André Frossard dans son livre qui s'appelle « Dieu existe, je l'ai rencontré », que beaucoup de gens aiment à répéter, qui dit « Dieu ne sait compter que jusqu'à 1 ». Bon, moi personnellement, je n'aime pas du tout cette phrase parce que je pense que Dieu sait tout faire et donc il peut certainement compter au-delà de 1. Et il me semble qu'en Dieu, justement, l'attention à chaque 1 ne l'empêche pas de savoir parfaitement compter jusqu'à n'importe quel nombre. D'ailleurs, dans les psaumes, il est dit à la louange de Dieu, je cite, « Il compte le nombre des étoiles et appelle chacune par son nom ». Et donc là, vous voyez qu'en Dieu, il y a à la fois cette faculté de voir chaque chose comme singulière, puisqu'il est capable d'appeler chaque étoile par son nom, mais d'un autre côté, il est dit quand même qu'il compte le nombre des étoiles. Donc il sait quand même aussi voir que toutes ces étoiles, ces singularités, ce n'est pas simplement des singularités juxtaposées, mais qu'elles forment aussi un ensemble qu'il sait dénombrer. Le nombre ne permet pas de saisir la réalité intégralement, c'est évident. Cependant, il permet d'en saisir certains aspects qui sont impossibles à appréhender autrement. Si on estime que le nombre prend trop de place, c'est moins le nombre qu'il faut incriminer que la situation qui appelle son règne. Le règne de la statistique n'a pas été imposé à une pauvre société qui n'en pouvait mais, il a été appelé par l'état de cette société. Et je termine vraiment, c'est le dernier mot. Malgré les critiques plus ou moins justifiées qu'on peut adresser à la statistique, cette statistique est loin de constituer un simple écran qui viendrait s'interposer entre nous et la réalité pour nous la dissimuler et tenir à distance le monde de la vie. Elle appartient au monde de la vie tel que nous l'habitons aujourd'hui et elle traduit de notre expérience un aspect actuellement tout aussi authentique que ceux qu'on aime d'habitude apparaître de cette épithète. On peut déplorer cet état de fait, mais en ce cas, ce n'est pas tant la statistique à laquelle il faut s'en prendre que nos façons d'habiter le monde et de vivre avec nos semblables qui seraient à changer. Voilà, je vous remercie.